Donc je vous remercie de m'accueillir ici parmi vous ce matin. Merci à Martine Marsoff de m'avoir convié à cette formation des formateurs. Visiblement, elle a un petit quart d'heure à faire passer avant que l'autre collègue arrive pour qu'il puisse démarrer la journée avec nous. Donc pour faire passer le temps, je vous invite à regarder l'un des supports que je vous ai fait distribuer. Je crois que vous êtes surtout intéressé par la pratique, par les documents que vous pourrez utiliser ou présenter aux gens que vous formez, aux professeurs du secondaire. Donc, dans le fascicule iconographie, on a de quoi s'occuper, je pense, pendant 10 minutes. Parce que de tout. Oui. J'en ai fait faire 30 de chaque, théoriquement. Enfin, j'ai. Sauf que c'est sur la clé et que. Oui, attendez. Que je... Super. Donc, on m'avait dit qu'il manquait un de la. C'était durable ça ou c'était les vôtres? On va essayer d'en faire tout à l'heure et comme ça c'est tout le monde en aura. C'est 4 de documents exactement. Donc visiblement il manque 2 exemplaires de chaque. Ou peut-être 3 pour le collègue qui doit arriver. Merci. Voilà. Donc, en attendant, je vais regarder les images avec vous. Il y en a une qui m'est particulièrement chère. Donc là. Enfin, je vais un peu vite fait le récapitulatif de ce que je vous montre. Donc là, c'est l'une des premières représentations, sinon la première représentation de Tristan. Merci. C'est sur un coffret qui se trouve à Vannes. Je rentre directement dans la pratique sans vous parler de théorie. On y reviendra, hein. C'est vraiment par le besoin du moment. Merci. Voilà, donc l'une des, sinon la première représentation de Tristan dans l'iconographie. Tristan en guerrier. Et probablement, ce document est plus ancien que les premiers textes en français même. C'est-à-dire, on a l'iconographie avant qu'on ait un témoin textuel. On voit donc ici à quel point la représentation de Tristan n'est pas uniquement importante en tant qu'amant, mais il y a une dimension héroïque qui se perd un peu dans les romans français parce qu'ils sont fragmentaires et il nous reste que... Disons, la partie centrale surtout, où on voit les peines, les aventures, les pièges que subissent les amants, et on voit un peu moins les exploits de Tristan dans son combat contre le Morholt, par exemple, ou contre le dragon. Donc on peut étudier cette image, je pense, à partir des plus jeunes classes, il n'y a pas de problème. Ensuite, il s'agit de représentations dans des romans en prose. Je vais essayer de faire tourner le document. Si ça va nous résoudre la question. Non, pas forcément, donc j'annule. Est-ce que ça s'est fait pour que vous l'ayez dans la main et que c'était pas prévu pour montrer tel quel? C'est Tristan dans le bain qui m'intéresse. Et là, je vais pouvoir faire tourner l'image quand même. Allez, pivoter, 1, 2, 3. Voilà mon Tristan dans le bain. C'est une scène qui n'est pas représentée dans les romans français, parce que justement ils sont lacunaires. C'est dans le voyage de Tristan en Irlande après avoir subi une blessure infligée par le Morholt qui l'a tué. Morholt qui était le représentant de l'Irlande, qui était l'oncle d'Iseut. Iseut qu'on voit ici à gauche. Tristan est donc dans le bain. Et ici, Pérénice, le page d'Iseut, qui montre l'épée de Tristan, qui est l'élément de conviction, d'identification de Tristan, parce que l'épée, on ne le voit pas très bien sur la photocopie, mais l'épée est ébréchée. Et donc dans le corps du Morholt, dans l'oncle d'Iseut, a été trouvé le morceau manquant. Donc Iseut, avec son regard, voit l'épée, voit qu'elle est ébréchée, que c'est donc l'assassin de son oncle qui se trouve nu, vulnérable devant elle. Il se trouve qu'elle a guéri le jeune homme qui avait cette blessure qui empestait, qui était vraiment difficile à guérir, sinon mortel. Et il y avait sans doute des sentiments qui étaient en train de d'éclore chez Iseut. Et voilà une donne qui remet tout en question. Et voilà, nous sommes à un point crucial en fait de la légende du mythe de Tristan et Iseut, qui est la question de la naissance de l'amour. Béroulle, l'un des auteurs français au XIIe siècle, a trouvé une explication pour cet amour fatal qui possède les amants d'une façon absolument inexplicable. Il a trouvé le filtre. Le filtre est le déclic qui déclenche l'amour entre eux deux. Ce n'est pas l'interprétation de Thomas, Thomas d'Angleterre, qui écrit un autre roman de Tristan au XIIe siècle. Chez lui, l'amour commence déjà à germer et en latence, il suffit d'un élément déclencheur, d'un catalyseur seulement, pour qu'il se présente. Alors que chez Béroulle, c'est la fatalité qui s'abat à un moment donné, avant il n'y a rien. Et donc, quand je regarde cette image, mon interprétation de cette image est que c'est plutôt la thèse « il y a de l'amour naissant ». Et on voit, on peut en tout cas voir de l'attrait entre les deux personnes quand on regarde un peu les lignes qui prédominent dans cette image. Donc nous avons le regard d'Iseux vers l'épée, mais quand on le suit, ce regard va aussi vers les yeux de Tristan. On peut étudier d'autres lignes par exemple. Il y a la main d'Iseux qui montre quelque chose qui est parallèle à cette épée. Donc il y a ici cet enjeu de l'identification du meurtrier. Mais regardez maintenant sa main. Tracez la ligne qui va de la main. Et vers la direction vers laquelle elle pointe, on suit cette ligne-là. Et je suis désolée, mais je vais faire atterrir ici. Et vous avez tous une bonne et saine fantaisie. Vous voyez ici le couteau qui se présente sur la table, qui pointe en direction des autres. Vous avez toutes les interprétations que vous voulez pour dire qu'il y a au moins un attrait sexuel entre les deux protagonistes. Voilà. Donc, je ne sais pas si, à quel niveau de classe vous voulez étudier ça, mais c'est en tout cas... Cette image est très riche, j'insiste là sur un petit détail, mais ça me paraît en tout cas intéressant sur la question de l'amour. Donc voilà, il y a ici des lignes de force qui existent entre ces deux personnages qui sont absolument évidentes. Je n'ai pas à regarder toutes les images, on peut encore étudier ça, c'est très joli aussi, pareil, je vais faire basculer l'image. C'est le coffret d'ivoire du musée de l'Ermitage à Leningrad. Ah oui, du coup, elle sort de mon cadre. Donc, je vais renier le tout. Si je coupe par là, voilà, ce sera mieux. Autre scène du mythe, le couple, Tristan et la femme qu'il devrait amener à son oncle Marc pour qu'il l'épouse, s'embarque sur la nef et arrive cette terrible journée d'été où il fait très chaud et où les deux protagonistes demandent à boire à la servante d'Iseut, à Brangien. Et arrive ce qui doit arriver, vous voyez ici le petit fût, hein, il y a un personnage qui peut identifier avec Brangien et vous voyez ici une coupe et la reine Iseut. Donc nous sommes ici dans le fameux moment où il y a l'absorption du filtre, donc le moment qui fait basculer le sort de Tristan. Et ça, c'est une sculpture donc en ivoire. Ça fait partie d'une série de 7 coffrets qui se sont faits dans un atelier parisien au XIVe siècle et dont il existe aujourd'hui ces 7 exemplaires un peu disséminés dans le monde. Je ne sais pas s'il y a encore tous les 7, mais il y en a un qui se trouve justement au musée de Cluny, au musée du Moyen-Âge à Paris. Magnifique. Un qui est à Saint-Pétersbourg, un autre qui est au Metropolitan Museum de New York. Et on voit que tous présentent des mêmes techniques de fabrication, une même interprétation du mythe, mais elles sont un peu différentes par la posture des personnages, par les petits détails. Mais on peut voir que c'est un même atelier qui les a fabriqués. Et sur l'un des coffrets, celui du musée du Moyen-Âge, notamment, il y a une sorte d'anthologie romanesque que nous trouvons. Il y a aussi des extraits du Chevalier de la Charrette, la scène où Lancelot traverse le pont. Donc si vous allez voir ce coffret-là, vous pouvez faire le tour vraiment pour étudier toutes les scènes intéressantes qui étaient une façon de lire le roman pour les illiterati du Moyen-Âge qui n'avaient pas la maîtrise de la lecture. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre d'intéressant ? Il y a aussi quelques images que j'ai mises sur le dossier qui vous pourraient être utiles pour montrer aux élèves que ce sont des sites qu'on peut encore visiter de nos jours si on fait des voyages en Cornouailles. Donc ici, par exemple, Tintagel. Ici, en fait, ça, c'est des images qui émanent de l'édition de Jean-Charles Payen. Donc vous trouvez tout dans un livre disponible malheureusement plus dans le commerce mais dans les bibliothèques et voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire des photocopies pour les travailler. Donc ici, représentation de ce qui reste en fait photo de Tintagel ou de ce qu'on a présumé être Tintagel qui dans la version de Béroulle, le roman de Béroulle est la résidence du roi Marc mais qui est identifié avec des châteaux, l'un des châteaux du roi Arthur dans un plus vaste horizon de la matière de Bretagne. Là encore une scène du filtre. ici une enluminure. Ici, c'est Tristan qui boit. Entre eux deux, l'échiquier, occupation divertissement courtois par excellence. Et on voit à quel point le maître de l'enluminure a insisté sur le rôle fatidique du filtre en mettant l'échiquier ici au fond, en quelque sorte. C'est pas uniquement divertissement, c'est que à ce moment-là, se trame le destin comme on trame un destin militaire qui se joue sur l'échiquier. Et je regarde un peu la main d'Iseute. Je fantasme peut-être un petit peu, mais l'endroit où elle a sa main, enfin le pion qu'elle bouge, c'est peut-être pas un pion, mais est-ce la dame qu'elle bouge par exemple qui se trouve dans le jeu d'échecs plutôt au centre? Et ça pourrait être le cas. Voilà, là c'est un autre exemple de coffret. Ça devrait être bon. Voilà, ça c'est le coffret du Metropolitan Museum of Arts. Et nous avons ici la représentation d'une scène que vous connaissez sans doute si vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseut. C'est la scène du rendez-vous épié. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc a été averti par trois barons félons et par un nain devin que les amants, Tristan et Iseut, vont se donner rendez-vous dans le jardin. Ils ont un moyen de communication assez particulier. C'est-à-dire dans la chambre d'Iseut court un petit ruisseau qui la traverse. C'est pas comment, c'est pas pourquoi. En tout cas, il y a ce ruisseau. Et si Tristan veut donner rendez-vous à son amante, il laisse tomber des petites feuilles pour signaler attention, il y a un message qui vient. Donc les feuilles sont juste le déclencheur de l'attention, c'est un signe fatigue. Et arrive après un petit coupon en bois qui doit porter une croix avec 5 branches. Et dès qu'Iseut voit ce signe, elle sait qu'il y a un rendez-vous dans le verger. Et voilà qu'il y a ce rendez-vous, mais malheureusement, les barons sont au courant, et surtout le roi est au courant, et le nain aussi. Marc, en tant que roi, décide donc d'assister à ce rendez-vous pour pouvoir convaincre, pour pouvoir se rendre compte de la culpabilité des amants. Mais... Pardon ? D'accord. Donc, mais il se trouve que Marc, qui est niché ici en haut, merci, se trouve reflété, enfin sa face se trouve reflétée dans la fontaine autour de laquelle Locus Amoenus, les amants se retrouvent, si bien qu'Iseut, qui s'en est aperçu la première, doit agir pour faire remarquer à Tristan qu'ils sont surpris, il faut surtout pas qu'ils commettent de bévues, qu'ils disent bien... qu'il n'y a rien entre eux, qu'il n'y a jamais eu rien et qu'il n'y aura jamais rien. Et Tristan aussi, dans le roman de Beyrou, fait comprendre à Iseut qu'il a très bien compris. Il rentre tout à fait dans le stratagème d'Iseut, si bien que Marc n'entend rien qui pourrait lui faire sonner les oreilles. Mais ici, la traduction de cette scène très théâtrale chez Beyrou est la suivante. Donc le sculpteur en ivoire traduit la théâtralité par des gestes, comme on le voit aussi dans une valve de miroir. Donc ici, la main d'Iseut pointe plutôt vers le haut, mais peut être explicative ou argumentative. Mais la main de Tristan pointe vers le bas, vers l'image de Marc dans la fontaine du cygne. Moi, j'ai remarqué aussi, nous sommes donc d'accord, nous pouvons donc jouer notre comédie à celui qui est embusqué là en haut. C'est ce rendez-vous au pied qui est en fait la scène phare pour l'histoire des arts au Moyen-Âge. C'est... la scène qui est la plus représentée sur tous les témoins que nous ayons donc de l'iconographie sur Tristan et Iseut, il y a à peu près 70 témoins et 27 concernent le rendez-vous épié. Il y en a une autre très belle image de ça. C'est la valve de Miro. Ah oui, une deuxième, peut-être intéressante. Elle n'est pas très bonne en qualité d'image, mais vous trouverez mieux sur Internet, vous pourrez regarder vous-même en tapant les mots dans un moteur de recherche sans problème. Ici, c'est un tapis qui se trouve à Ratisbonne. Et la même chose, c'est en couleur seulement. Donc, Iseut, Tristan, le roi dans l'arbre, et ici, le reflet dans la fontaine. Donc, les choses ressortent assez vivement par les couleurs. Là, vous avez le magnifique valve de miroir où, justement, il y a cette centralité de l'arbre qui fait axe d'image. La main d'Iseut qui est tendu vers le haut, vers la tête du roi Marc, c'est Tristan, et la main d'Iseut qui pointe vers le bas, qui montre la tête, le reflet de Marc. Le faucon, ou l'oiseau que Iseut a sur la main, est un signe aussi de l'amour courtois, et Tristan est accompagné de Usdon, son chien, qui joue un rôle important dans le mythe, parce que c'est par exemple le seul qui reconnaît Tristan lorsqu'il est, il revient déguisé. Et même Iseult ne reconnaît pas, et il ne croit pas que c'est Tristan, elle ne croit pas que c'est Tristan qui est revenu, mais lorsque Usdon aboie, c'est le signe pour Iseult qu'il doit vraiment s'agir de Tristan, puisque c'est seulement lui qui peut reconnaître son maître. D'escola parto du Louvre. Ça, c'est déjà assez tardif. C'est une représentation de Tristan figurant comme l'un des esclaves d'amour. Donc, vous pourrez lire tout ça en détail plus avec le support. Et ici, Vénus est représentée comme une Marie dans une mandorle. Donc, ça montre le lien très fort de Tristan en tant que voilà, l'amant par excellence à la fin du Moyen-Âge. Et image que je chéris particulièrement, le tapis de Wienhausen. Là, j'aurais du mal à tourner l'image sans qu'on perde le tout, mais je vais essayer. Comment je l'ai fait tout à l'heure? Non, ça c'est revenir en arrière. Il me faudrait une petite barre d'outils. Dessin peut-être? Non. Bon, comment je l'ai fait pour tourner tout là? Vous l'avez en couleur en tout cas. Hein. Vous pouvez le tourner dans le bon sens, alors que nous, on ne peut pas le faire. Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion, c'est cet après-midi ou c'était demain, la tapisserie des Bayeux?
Demain.
Donc ici, vous n'avez pas la tapisserie de Bayeux, c'est beaucoup plus petit. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire, vous avez une sorte de BD qui raconte une histoire. Donc c'est un véritable récit qui se met en place. Il y a trois bandes d'images qui ne racontent malheureusement que le début de l'histoire et qui est coupé par des blasons. Donc ce tapis vient de l'Allemagne du Nord, du XIVe siècle, et se trouve encore aujourd'hui dans un couvent qui s'appelle Wienhausen, c'est près d'Hanovre. C'est un tapis qui, bien sûr, est fragile, qui est exposé uniquement pendant une semaine près de la Pentecôte, au mois de mai-juin en Allemagne. Donc on a le droit de le regarder pendant une semaine. Je n'ai pas encore eu la chance d'aller le voir, mais je crois que je programmerai une prochaine visite à ce moment-là pour retourner chez mes parents pour voir ça. Et donc ce que vous voyez, c'est ici le départ de Tristan, qui va combattre le Morholt. Donc vous avez le retour, vous avez ensuite, ça c'est une scène intéressante aussi, la représentation de Tristan avec cette plaie qui ne guérit pas. Il s'abandonne dans une barque sans voile, si bien qu'il se laisse vraiment aller à la fatalité, au destin, qui doit l'amener là où bon lui semble. Bonjour. Et bien sûr, cette barque va l'amener en Irlande. Donc la fatalité ne commence pas dans ce mythe avec le filtre. La fatalité commence déjà avant et elle est très liée à l'élément aquatique, à la mer en l'occurrence. Donc nous avons ensuite le combat contre le dragon, un magnifique dragon ici en rouge, bête diabolique bien sûr. Voilà, et après le moment où Iseult partira avec Tristan et ça se clôt sur le filtre. Donc nous avons seulement le début des amours naissantes de Tristan et Iseult sur ce beau tapis. Si vous voulez, on pourra peut-être laisser les autres documents et aussi l'approfondissement de ces images, des questions, des débats, des possibilités d'application, d'exploitation en cours pour plus tard, pour commencer maintenant avec l'introduction à la journée.